Les heures s'écoulent. Les jours se succèdent. Les années défilent sur l'île lointaine de Calypso. Voilà maintenant 7 ans qu'Ulysse vit avec la nymphe, la fille du dieu Atlas, loin d'Ithaque et des siens. 7 ans que son univers se limite à cette île. 7 ans qu'il a disparu du monde des hommes. Dans cette vie où chaque jour est semblable au précédent, Ulysse est comblé par Calypso, qui le couvre d'attention. Dans la grotte tapissée de fleurs qui lui sert de demeure, Calypso lui offre tout ce qu'il peut désirer. Rien n'est trop beau pour retenir auprès d'elle celui qu'elle aime plus que tout. Mais en même temps qu'il se délecte de cette vie de plaisir, Ulysse sent un étrange sentiment l'envahir. Ce n'est pas exactement de la tristesse, pas exactement du chagrin. Un peu des deux, toutefois. Il s'isole, passe des heures à contempler la mer, le regard vide. Un mal étrange le tenaille, la nostalgie. Sur cette île où tous les bonheurs sont à portée de main, Ulysse songe à son foyer, Ithaque. À son épouse, Pénélope, à son fils, Télémaque. Il est un sentiment que les dieux immortels partagent avec les hommes mortels, le tourment. En témoigne le visage fermé du maître de l'Olympe, qui siège dans un palais déserté. À quelques pas de lui, sa fille, Athéna, l'observe en silence. Elle-même n'est guère plus apaisée que son père. C'est encore du sort d'Ulysse qu'il s'agit. Ulysse, qu'elle n'a cessé de protéger, envers et contre Zeus, et souvent contre lui-même. Voilà donc 7 ans qu'Ulysse est captif de la nymphe Calypso, qui déploie ses charmes redoutables pour le retenir auprès d'elle. Athéna s'emporte contre la déesse qui a osé proposer l'immortalité à son amant. Elle a outrepassé ses droits. Certes, Calypso est une déesse, mais il ne lui appartient pas d'offrir l'immortalité à un mortel. Aucun dieu n'a ce pouvoir, hormis Zeus, le dieu des dieux. Prétendre l'inverse, c'est défier Zeus, le maître de l'Olympe. Zeus fulmine. C'est donc à celui qui lancera le plus grand défi au maître de l'Olympe. Car Ulysse, jour après jour, se détourne un peu plus des dieux. Il profère à leur encontre des paroles blasphématoires qu'aucun mortel n'a jamais osé prononcer. Et pendant ce temps, Poséidon et Hélios, les dieux offensés par Ulysse, clament vengeance. Ils menacent Zeus de violentes représailles s'ils n'obtiennent pas satisfaction. C'est tout cela qui tourmente Zeus. La désobéissance de Calypso, le risque d'une guerre ouverte avec Poséidon et Hélios, et bien plus encore, l'impiété dans laquelle Ulysse s'enfonce un peu plus à mesure que Calypso lui offre une vie de plaisir facile. Les dieux doivent leur existence à la croyance des hommes. Que cette croyance s'éteigne, et les dieux perdront tout pouvoir. Y compris Zeus. Il le sait. Athéna, une fois encore, plaide la cause d'Ulysse, son protégé. Si les dieux décidaient d'aider Ulysse à quitter Calypso et à rentrer chez lui, à Ithaque, alors il retrouverait cette foi qui ne cesse de vaciller depuis qu'il a abandonné les ruines fumantes de Troie. À nouveau, Athéna sait se montrer convaincante. Zeus finit par céder à sa fille préférée. Eh bien, soit. Culis rentre donc sur son rocher parsemé de chèvres. Le dieu Hermès vient de faire son apparition dans la grotte de Calypso. Elle l'a reconnu dès qu'il a franchi le seuil de sa demeure. Mais elle s'étonne de sa présence. Les dieux jamais ne visitent Calypso. Hermès lui fait part de la mission que lui a confiée Zeus. C'est sur son ordre qu'il est ici. Le dieu des dieux n'a pas accepté que Calypso ose offrir l'immortalité à son bel amant, et il la somme de lui rendre sa liberté. Une tristesse insondable s'abat sur la déesse. Hermès ajoute qu'il est impossible à un dieu d'esquiver les décisions du maître de l'Olympe. Calypso doit se soumettre et laisser Ulysse rentrer chez lui. Les décisions du maître de l'Olympe. Calypso voudrait répondre qu'elles sont contestées, régulièrement et depuis des siècles, par sa propre épouse, Héra, par son propre frère, Poséidon, par ses propres enfants, Arès, le dieu de la guerre, et par les divins jumeaux, Apollon et Artémis, qui refusent désormais de paraître sur l'Olympe. Tous contestent les décisions du maître de l'Olympe, mais elle se retient. Calypso étouffe ses sanglots. Elle fait part à Hermès du terrible sentiment d'injustice qu'elle ressent. N'est-ce pas elle qui a sauvé cet homme lorsqu'il était seul sur sa quille, après que Zeus lui-même, pour complaire à Poséidon, toujours assoiffé de vie humaine, eut fendu son vaisseau de sa foudre aveuglante ? Mais elle obéira au décret de Zeus, car son esprit est juste et son âme pleine de pitié pour celui qu'elle aime et dont elle voulait faire son immortel époux. Calypso rejoint Ulysse sur le rivage. Avant toute chose, elle lui dit qu'elle obéit à la plus haute de toutes les autorités, contre son gré. Mais elle l'avertit aussitôt. S'il pouvait imaginer tous les soucis que le sort lui prodiguera jusqu'au jour du retour, alors il choisirait de rester avec elle. Choisir. Ulysse peut choisir. La vie est douce aux côtés de Calypso. Mais son épouse Pénélope lui manque autant que son fils Télémaque et sa terre d'Ithaque. Alors, Ulysse choisit. Il va partir. Le cœur serré, Calypso accepte le choix de son amant. Elle indique même à Ulysse par quels moyens il peut construire un navire. En 4 jours, Ulysse fabrique son embarcation. Et la déesse elle-même, dans une grande toile, découpe et tisse la voile qu'il fixe au mât taillé dans le bois des oliviers. Puis Calypso offre à Ulysse des parfums et des vivres. Fidèle à la promesse faite à son dieu, elle laisse l'homme qu'elle aime prendre la mer. affronter une nouvelle fois les flots. D'un geste, la déesse fait s'élever un vent léger, inoffensif, doux. Et le vaisseau cingle loin du lagon, loin de l'île de Calypso. Ulysse jubile. Il ouvre sa voile à la brise, se place à la barre et la tient jour et nuit. 17 jours, il navigue en haute mer. Et le 18e jour, apparaissent les monts brumeux de Phéacie. Ithaque est donc toute proche. Ulysse s'installe à l'étrave. Il scrute l'horizon à l'affût de récifs, de serpents de mer ou d'autres dangers. Mais rien ne se montre, sinon les côtes familières du pays des Phéaciens. C'est alors que Poséidon, l'ébranleur du sol, aperçoit l'esquif d'Ulysse. Sa rage redouble. Son âme, pleine de rancune, n'a pas oublié l'affront qui lui a été fait. De son trident, Poséidon couvre de ténèbres le ciel et la mer. Les vents s'abattent tous ensemble sur le vaisseau d'Ulysse. Bientôt, la terrible tempête brise le mât et la voile tombe dans les profondeurs. Ulysse est sous l'eau de longues minutes, sans pouvoir remonter. Pendant 2 jours et 2 nuits, Ulysse dérive, accroché à une poutre. Pas un port n'est en vue, pas une crique, pas une baie. Rien que des éperons, des rochers, des falaises. Et la houle autour de lui gronde avec violence. Mais alors qu'il va se fracasser contre les brisants, sa course est soudain déviée et s'achève sur une plage. Avec ce qu'il lui reste de force, Ulysse rampe sur le sable, puis s'écroule à bout de souffle. Parmi les roseaux. Lorsqu'Ulysse reprend connaissance, la première chose qu'il aperçoit, c'est une petite balle qui vient rouler contre lui. Des jeunes filles le dévisagent, bouche bée. À peine fait-il mine de se lever, qu'elle s'enfuit. Est-il donc devenu si effrayant ? Ulysse se redresse lentement. Il fait quelques pas à travers les broussailles. Et là, soudain, découvre devant lui une autre jeune femme à la beauté saisissante. Leurs regards se croisent. Elle détourne le visage. Ulysse comprend alors qu'il est nu, sale, maculé de sang et de boue. La jeune femme pourtant ne se trouble pas. Elle lui dit son nom. Elle s'appelle Nausicaa. Elle est la fille d'Alcinoos, le roi des Phéaciens. Elle sermonne ses jeunes servantes. Cet inconnu n'est pas un ennemi, sinon il serait venu armé, accompagné de guerriers. Le devoir sacré d'hospitalité s'impose, car les étrangers viennent de Zeus. Nausicaa ordonne à ses suivantes d'amener ce naufragé aux allures de mendiant jusqu'au fleuve, afin qu'elle le lave et lui apporte des vêtements.